Bien, merci beaucoup. Alors, merci pour votre présence en ce jour maussade et froid et triste. Je suis très heureux d'accueillir pour la seconde fois José Emilio Bolocoa au Collège de France. En 2008, il avait donné une série de 4 conférences dans le cadre d'une invitation sur une chaire d'État. Et cette année, avec ma collègue Anne Cheng, spécialiste de l'histoire chinoise, nous l'avons invité pour 2 conférences aujourd'hui et puis la prochaine qui a lieu lundi prochain, même lieu et même heure. Alors, je rappellerai rapidement quelques traits de la biographie intellectuelle de José Emilio Bolocoa, qui est argentin, né à Buenos Aires, et dont la première partie du travail avait été consacrée à l'Italie, en particulier à Galilée, mais un Galilée traité dans son rapport avec les arts figuratifs. Et c'était le premier grand travail de José Emilio Bolocoa, le livre de la nature, étude à propos des idées de Galileo Galilei sur les arts figuratifs. Cette thèse défendue, il est devenu professeur à l'Université de Buenos Aires, dans laquelle il a occupé différentes positions, différentes fonctions, différentes responsabilités. Et depuis 1998, il enseigne dans le cadre de l'Université nationale du Général San Martín, toujours à Buenos Aires. Son travail s'est organisé autour de quelques orientations fondamentales. Malheureusement, à part quelques articles, ces livres ne sont accessibles en espagnol. Un premier acte du travail a été de reprendre les réflexions à la fois philosophiques et historiques sur le rire à l'époque moderne, ce qu'il appelle la modernité classique entre le XVe et le XVIIe siècle. Et il a publié sur ce sujet 2 livres, l'un qui, reprenant une image de Saint Grégoire le Grand, a pour titre « Corderos y Elefantes », les agneaux et les éléphants, tous les deux sont sauvés par des voies différentes, et le sous-titre « La sacralité et le rire dans la modernité classique ». Et un second livre, celui-là était de 2001, en 2007, il a publié, en centrant l'attention sur les gravures, un ouvrage intitulé « L'image et le rire ». Donc, son travail ici, qui est à la fois d'histoire culturelle, mais avec une très forte dimension d'histoire de l'art, et il a toujours été un lecteur très assidu et très précis de la grande tradition de l'histoire de l'art européen, et en particulier celle fondée par Abi Warburg. Et en 2002, au Fondo de Cultura Económica, il a publié un livre qui a pour titre « Histoire, art, culture », d'Abi Warburg à Carlo Ginzburg, dont tout le monde sait l'importance qu'il accorde, Carlo Ginzburg, à la tension entre morphologie et histoire dans l'œuvre de Abi Warburg. Et d'autre part, un recueil d'essais d'histoire de l'art et de José Emilio Bolocoa a été réuni sous le titre « Histoire et ambivalence » en 2006. Et basculant de cette attention sur le rire par cette médiation d'une référence puissante à l'œuvre de Warburg, et en particulier dans la tension entre reconnaître des formes qui sont universelles, par exemple pour expliquer les sentiments du pathétique, donc ce qu'on appellerait une approche morphologique, et puis d'autre part une approche historique qui est celle d'étudier les réemplois, la manière dont une époque ou un artiste s'approprie des œuvres déjà là. Il a déplacé son attention sur un objet plus dramatique que le rire, c'est-à-dire sur les représentations dans la même période, mais poussées jusqu'au XXe siècle, du massacre et du génocide. Et c'était là une enquête menée par lui-même et aussi dans une dimension collective avec un certain nombre de ses jeunes collègues ou de ses étudiants. J'ajouterai, pour terminer ce portrait intellectuel, qu'il y a aussi dans l'œuvre de José Emilio Bolocoa des propositions originales qu'on ne trouve pas généralement dans le travail plus ordinaire ou plus gris des historiens. D'un côté, comme écrivain, dans un sens, il a publié un récit de voyage qui s'appelle, sous forme de lettres, les lettres nord-américaines, où il a mis à profit une expérience qui a été la sienne lorsqu'il a été invité au Getty Institute en Californie. Et il a tenu régulièrement, par des lettres, peut-être fictives, peut-être réelles, les deux, un journal de voyage qui est extrêmement intéressant, original, pittoresque, profond, sur le monde nord-américain. Et je crois qu'il est en train d'écrire un journal parallèle, je ne sais pas si ça s'appellera Cartas Alemanas, pour en rapport avec l'expérience qui est la sienne en cette année universitaire et qui est d'être fellow, membre du Wissenschaftskolleg à Berlin. Et là encore, parallèlement à un travail de recherche qu'il a mené dans le cadre de cette année avec un accès facile aux richesses bibliographiques de Berlin, je ne sais pas quelle forme prendra ce journal, lettre ou non, mais quelque chose qui serait aussi pour nous plus proche, puisque une expérience allemande et européenne par un historien qui est très familier de l'Europe, mais qui évidemment travaille de manière permanente de l'autre côté de l'océan. Et j'attirerai aussi l'attention sur un livre plus original encore, qui a pour titre Encyclopédia BSC. Et c'est un travail qui commence assez classiquement avec des fonds d'archives familiaux de la famille de José Emilio Borugué, en particulier la famille de son épouse Aurora, famille de juifs roumains qui, après une longue itinérance liée à la guerre et à ce qui l'a suivi, se retrouve en Argentine. Mais sur cette base documentaire classique, c'est-à-dire un livre un journal tenu par le héros principal, des documents de différents types, José Emilio Borugué a construit un livre qui est original, profondément original dans sa forme. Il l'a sous-titré d'ailleurs « Expérimentation ou expérience d'historiographie satirique ». Les deux mots importent. L'expérience, c'est d'organiser cette matière sous une forme encyclopédique, donc des entrées successives qui correspondent aux différents personnages. L'aspect satirique, c'est le ton parodique, le ton satirique qui est présent dans l'ouvrage et qui donne, par exemple, son ouverture sous la forme d'une écriture ou réécriture parodique du discours préliminaire de l'encyclopédie, et en même temps une très grande profondeur ou densité, voire tragique dimension du livre, puisque ce livre compte des destinées tragiquement affectées par l'histoire, celle de ceux qui, pour des raisons diverses, raciales ou politiques, sont obligés à l'exil et à travers une longue et pénible et dure itinérance, finalement arrivent à un port, dans ce cas-là, Buenos Aires, et aussi en arrière-fond, une autre histoire tragique, celle même du pays qui est celui de José Emilio Borugué, et en particulier des moments les plus cruels, ceux de la dictature installée en 1976, avec les massacres et les assassinats multiples qu'elle a commis. La dernière chose que je voudrais dire, c'est qu'à l'occasion de ce livre, Encyclopédia BSC, publié par un éditeur espagnol de Cáceres, l'éditeur s'appelle Periférica, Gaston Borugué, parce que c'est le nom que lui donnent tous ses amis, je n'ai jamais bien su pourquoi, mais enfin, sur toute la bibliographie, cherchez José Emilio, mais si vous le rencontrez, après quelques minutes, il vous dira de l'appeler Gaston. Ben, donc c'est un homme à deux prénoms, ou à trois, avec José Emilio. Il a donné des entretiens, et dans un des entretiens qui m'a le plus frappé, qui était donné dans le supplément du journal espagnol ABC, et il revient sur ce livre, sa dimension satirique, sa dimension tragique, et sa dimension aussi d'innovation dans l'écriture, puisque certes, d'autres auraient suivi une sorte de narration chronologique suivant les sources qui sont celles qu'il a pu utiliser, et non pas une construction plus complexe qui, par les entrées alphabétiques, fait s'entrecroiser en permanence les destins. Et il s'explique aussi sur sa manière de concevoir l'histoire, disant par exemple dans cet entretien que, comme Carlo Ginzburg, il n'est pas de ces historiens qui mettent la vérité entre guillemets, comme on fait aux États-Unis maintenant pour signaler physiquement les guillemets, et il déclare « Pour moi, une vérité existe, à laquelle certes il est difficile d'arriver, et que probablement nous n'atteindrons jamais dans sa totalité, mais il y a quelque chose qui a existé, qui est l'expérience des hommes du passé, distincte de la nôtre, et un historien a le devoir de nous dire, de s'approcher et d'énoncer quelle a été cette vérité qui est en deçà du discours que l'historien peut tenir sur elle, mais qui en même temps est son objet fondamental, on pourrait dire non seulement son objet intellectuel, mais aussi sa tâche civique et éthique. Les deux conférences qu'il va donner au Collège de France en ce mois de juin sont sur le premier aspect que j'ai évoqué de son travail, c'est-à-dire l'accroissement entre l'histoire de l'art et l'histoire culturelle, et en particulier l'histoire de l'art ou des formes esthétiques et l'histoire des textes qui leur servent de référence, de support, d'inspiration, ou bien qui les commentent, qui les glosent. Et aujourd'hui, nous commençons avec un intitulé général, « Texte et images au pluriel » dans les rapports artistiques entre l'Italie et l'Allemagne au début du XVIe siècle, mais avec, je crois, une attention toute particulière portée à Léonard de Vinci et Altdorfer. Donc, merci beaucoup pour ta présence, puisqu'on se tutoie, ta présence ici en ce mois de juin.
Merci à toi, Roger, pour cette présentation magnifique que tu as fait de moi, méritée. Je commence. Vous allez voir que c'est un début un peu bizarre, peut-être, mais je crois que dans quelques instants, je pourrai m'expliquer d'emblée. Ça semblera un peu rare, peut-être. Mais je commence avec la citation d'un poète chinois contemporain sur ce problème particulier des rapports entre texte et image. Donc, je lis cette citation. « La base de la culture chinoise est la pensée chinoise. Et la base de cette pensée se trouve à la fois dans les caractères chinois. Comme le dit un ancien proverbe, la calligraphie et la peinture ont la même origine. Les deux ont leur racine dans les caractères de notre écriture, ou bien plus précisément, dans la nature linguistique de ces caractères. À l'intérieur de la calligraphie, la peinture et la poésie chinoise, la pensée permet de regarder les choses d'en haut, du point de vue de la transcendance. Beaucoup de grands peintres sont à la fois de grands poètes. Dès le début, les poètes ont voulu réécrire la tradition. La visibilité, l'audibilité, la sensibilité embrassées dans les poèmes permettent aux artistes de vivre dans un instant qui dure pour toujours. C'est important de comprendre que l'art chinois n'est pas un équivalent de la nature, bien que la nature soit le contenu typique des peintures et des poèmes. La nature qui y apparaît est vraiment l'œuvre de l'homme. Voici une formulation contemporaine du problème classique des rapports entre texte et image, faite à propos d'une exposition de peinture de Xu Longsen. Vous voyez ici le sommet du lotus, peinte en 2011. Cette formulation était faite par Yang Liang, un grand poète chinois de notre temps, qui est avec moi cette année, fellow au Wissenschaft Kolleg. Cette formulation a tous les éléments que nous prendrons en considération aujourd'hui. Les origines communes de l'écrit et du dessiné, le rapport complexe, tendu, jamais pacifique de ces deux dispositifs culturels avec l'expérience de la nature. L'équivalence est la traduction d'un horizon symbolique à l'autre. Mais j'ai lu ce passage pour introduire le sujet énoncé et j'ai deux raisons pour cela. La première, c'est que Yang Lian a résumé la question avec des mots beaux et simples. La seconde, pour rendre hommage à la professeure Han Cheng, spécialiste en histoire et civilisation de la Chine, qui m'a fait l'honneur de m'inviter avec Roger Chartier au Collège de France. Malheureusement, ce sera la seule mention que je pourrais faire au trésor de la Chine, que je ne connais qu'indirectement, très peu. Le professeur Chartier, par contre, est derrière beaucoup des idées que je vous proposerai ce soir. Je voudrais remercier vivement Anne et Roger, ainsi que les collègues et les administrateurs de cette institution. Que ma reconnaissance aille aussi au Wissenschaftskolleg sous Berlin, où je vis maintenant une des expériences de recherche et d'études plus belles des derniers temps. C'est là où j'ai ramassé les matériaux qui m'ont permis de préparer les deux conférences pour le Collège de France. Donc, je passe au sujet. Donc, le principe, il y a deux parties. Le principe de la première partie de mon exposé est le suivant. Il y a un principe dans la base. Une histoire valable des images repose sur le fait de leur dépendance ou bien de leur correspondance avec le texte. Mais dans la deuxième partie, je critiquerai et rejetterai ce principe. Il y a un texte de Léonard qui a provoqué un exercice inédit de la fantaisie parmi les spécialistes de l'œuvre du Vincien. Il s'agit de la lettre imaginaire adressé au gouverneur, le Diodario, de Soria, c'est la Syrie, et rédigé par un fonctionnaire fictif qui fait un rapport sur la scène, le développement et les effets d'une inondation catastrophique dans les alentours du mont Taurus. Voilà. Voilà les pages du manuscrit de Léonard. Le récit est accompagné par des paysages dessinés à l'encre qui l'illustrent. Mené par la précision descriptive et visuelle de l'enregistrement des phénomènes qu'on y trouve, le premier traducteur et éditeur des cahiers de notes de Léonard, Jean-Paul Richter, a émis en 1881 la conjecture d'un voyage de Léonard en Asie mineure et en Arménie. Une excursion qui aurait eu lieu à un certain moment entre 1480 et 1485. En 1925, l'hypothèse de l'érudit allemand enthousiasmait encore Edmondo Solmi, un des grands spécialistes de l'époque de la peinture de Léonard. Mais cette hypothèse attirait encore Solmi, bien qu'elle ait été réfutée par le français Eugène Muntz et l'américain Douglas Freshfeld en 1884 déjà, avec les arguments suivants. 1. Les noms et les descriptions de Léonard se rattachent à la tradition classique, non pas aux topographies médiévales ni à celles d'un fonctionnaire oriental. Et le thème de l'éclat du mont Taurus dérive des considérations faites par Aristote dans les Météorologiques, livre 1, chapitre 13, plus que d'une observation directe du phénomène. Le texte du Vincien révèle une confusion entre le Taurus et le Caucase qui était courante dans l'Antiquité. 2. Léonard avait cette habitude de stimuler l'imagination et d'appliquer les lois de la perspective à la représentation de catastrophes et de paysages qu'il n'avait jamais vus ou visités. 3. Malgré les affirmations de Richter sur la présence d'ébauches de villes, objets et personnages de l'Orient parmi les dessins de Léonard, on ne trouve pas dans ce corpus des esquisses de bâtiments orientaux. Il y a par contre un dessin de quelques chameaux et trois têtes d'Arméniens qu'on trouvait dans les rues de Venise à la fin du Quattrocento. Donc, et je veux vous lire quelques passages de cette lettre si belle qui était particulièrement aimée par Paul Valéry. Et Paul Valéry n'a pas directement fait, mais corrigé et élaboré c'est ce merveilleux texte de Léonard. Donc, je vous lis une partie de cette traduction dans laquelle a intervenu le grand Paul Valéry. Donc, Léonard dit qu'il va faire une description du mont Taurus, et on voit au Diodario de Soria, lieutenant du sacré sultan de Babylone. Me trouvant en cette région d'Arménie, pour remplir avec amour et zèle l'office en vue duquel tu m'as mandé, et pour commencer par ces parties qui me semblent plus conformes à notre propos, j'entrai dans la cité de Calindra, voisine de nos frontières. Cette ville est située sur la rive marine, du côté du Taurus séparé de l'Euphrate, et regarde le grand mont Taurus en opposant. Si élevés sont ces pics qu'ils semblent toucher le ciel, car nulle part au monde la terre n'est plus haute que leur cime, et les rayons du soleil les frappent toujours au levant, 4 heures avant le jour. L'extrême blancheur de la pierre le fait briller d'un vif éclat, et pour les Arméniens de ces parages, elle est comme un beau clair de lune au milieu des ténèbres. Sa grande altitude dépasse le niveau des plus hauts nuages sur un espace de 4 000 milles en ligne droite. D'une grande partie de l'Occident, on voit ce pic illuminé par le soleil après son coucher, durant la troisième partie de la nuit. Et c'est lui qui, chez nous, par temps serein, fut pris d'abord pour une comète, et dans l'obscurité nocturne, nous apparut sous des aspects divers, tantôt divisés en 2 ou 3 parties, tantôt longs et tantôt brefs. Cela tient aux nuages de l'horizon qui sont entre un côté de ce mont et le soleil et interceptent les rayons solaires. La lumière de la montagne se trouve donc coupée par divers intervalles de nuées et dès lors son éclat varie de forme. Ça continue, donc c'est d'une grande beauté, mais vous pouvez le trouver un peu partout dans les textes, les éditions des textes de Léonard. Donc, notre attention a été capturée par la relation étroite qui semble exister entre la description de Léonard dans la lettre fictive et le paysage de cette monumentale bataille d'Alexandre peinte par l'Allemand Albrecht Haldorfer en 1528. Cette table représente la victoire d'Alexandre sur la grande armée de Darius III de Perse à Issos, une bataille qui a eu lieu précisément sur les pentes du mont Taurus. Curtius Rufus, dans son histoire d'Alexandre, a raconté les épisodes avec les détails géographiques et les mouvements tactiques des masses qui se sont affrontés à Issos. Le panneau suspendu dans la partie haute de notre tableau résume les données des Curtius sur la mort des soldats perses et la prise de la famille de Darius, ce qui montre la dépendance du peintre par rapport à l'histoire d'Alexandre. Je vais mettre ça aussi en discussion après. Mais à vrai dire, l'illumination du versant occidental du mont Taurus, vous le voyez là, presque au centre du tableau, et le spectacle de la mer, la terre, le ciel, le soleil, au-delà de la ligne de la côte, s'accordent avec le paysage littéraire du Vincien. On voit l'embouchure de l'Orontes, juste au-dessus du mont Taurus. Ça, c'est l'embouchure du fleuve. Sur la côte de Syrie, on voit l'île de Chypre, vous la voyez là. L'isthme de Suez, hein, plus au fond, ça c'est cette bande de terre que vous voyez entre les deux mers, c'est l'isthme de Suez, la mer Rouge au-delà. Les bouches du delta du Nil, les effets atmosphériques, le changement progressif vers le bleu intense des eaux et des reliefs au fur et à mesure qu'ils s'éloignent vers la courbe de l'horizon, le tourbillon d'orange et de jaune autour du soleil couchant, la luminosité cendrée de la lune se lie à plusieurs passages de manuscrits de Léonard sur l'astronomie et à sa théorie de la lumière, de la couleur et surtout de l'illumination de la lune. Cette œuvre d'Haldorfer faisait partie d'un ensemble monumental de 16 tableaux au palais du duc Guillaume IV de Bavière à Munich. Le cycle, réalisé entre 1528 et 40 par sept artistes, représentait des scènes de la vie de huit femmes vertueuses de la Bible, l'histoire romaine et les gènes des saints, ainsi que des épisodes militaires de la vie de huit hommes vertueux de l'Antiquité. La bataille peinte par Altdorfer se détache des autres justement grâce aux audaces chromatiques, à la combinaison de perspectives et à l'élan cosmique qui l'unissent au monde de Léonard. Mais quelles auraient pu être les voies de communication entre Altdorfer et le Vincien ? Rappelons-nous que l'Allemand n'a jamais visité l'Italie. Donc, quel champ de l'activité de Léonard aurait permis la transmission, celui des dessins, celui des textes ou bien de ses formes artistiques, des idées sur le caractère scientifique de l'art? Les contacts personnels et stylistiques entre Altdorfer, un troisième personnage, hein, qui après j'essaierai de relier à Léonard lui-même, c'est Dürer, ces contacts personnels, proches et stylistiques entre ces deux peintres allemands sont bien démontrés. Les deux artistes, donc ça, dans là, vous voyez bien tout ça, ce paysage que je viens de décrire. Alors, Altdorfer et Dürer étaient ensemble dans l'atelier des peintures et miniatures de la cour de Vienne entre 1513 et 1518. Les deux, c'est, vous voyez, hein, au-dessus, c'est une des miniatures qui ont été attribuées à Dürer. Les deux ont travaillé tant à la décoration du livre d'heures de Maximilien, l'empereur Maximilien Ier, en 1515, ainsi qu'au projet d'un arc de triomphe, vous le voyez là, pour le même empereur de 1516 à 1518. Aussi, sujet des liens entre Dürer et Léonard, d'autre part, les trouvailles, les certitudes et la bibliographie sont presque interminables. Il n'y a presque plus de doute sur les prêts que l'artiste de Nuremberg a extraits de l'œuvre peinte et des dessins du Vincien. La connaissance directe des dessins de Léonard de la part de Dürer est prouvée, puisque Dürer a copié dans le folio 94 de son cahier de notes une des anatomies du Toscan qui se trouve aujourd'hui dans le Codex Windsor. Et vous pouvez voir là comment elle prend cette partie du nu de Léonard et l'esquisse des jambes, mais inversée dans le cas des esquisses de jambes. Et il est intéressant de rappeler que l'accès de copie de Dürer est inversé, mais ce pourrait s'expliquer de plusieurs façons. D'une part, l'inversion indiquerait que Dürer a eu accès aux notes léonardiennes à travers une gravure. Mais il se pourrait que Dürer ait vu une page vincienne, puisqu'on sait bien que Léonard écrivait ses textes en miroir, de façon que le copiste soit obligé de renverser l'image. D'autres preuves de son admiration pour le Vincien sont ses dessins de chevaux et sa copie de l'ébauche magnifique que Léonard a faite de la tête du Christ pour la scène au réfectoire de Sainte-Marie des Anges à Milan. Voilà le dessin de Dürer et de cette ébauche pour la scène de Milan. Les dessins de nœuds et entrelacements ont une longue histoire antérieure au Quattrocento. Mais Léonard a porté cet art à des sommets de virtuosité avec fantasia, ordine et difficulté, comme Vasari a écrit. Bien que la pratique existe depuis le 7e siècle, elle a connu une nouvelle splendeur au nord de l'Italie pendant le troisième quart du 15e siècle. Une corde nouée plusieurs fois autour d'un centre était l'emblème principal de l'Accademia Leonardo da Vinci. Vous l'avez là. Hein? Tel qu'on le voit dans l'œuvre d'un graveur milanais anonyme qui a travaillé à partir des dessins de Léonard entre 1495 et 1499. Les formules de ces entrelacements sont comparables aux nœuds de fil d'or dans les rameaux fictifs, ici, de la Sala delle Asse au Castello Sforzesco à Milan. C'est une œuvre attribuée à Léonard, celle-ci aussi. Les uns et les autres se relient aux Ludi Geometrici, que Leonardo a exploré depuis 1482 sur l'influence de Donato Bramante et de Luca Pacioli. Leonard appelait ses dessins « gruppi », un terme adopté par Vasari dans la vie qu'il écrivit sur l'artiste. L'intérêt de Dürer pour les gravures de nœuds inspirées des dessins de Leonard est aujourd'hui une chose acceptée. Ces deux gravures sont des gravures faites par Dürer. Les marques d'eau du papier que Dürer a utilisé pour ses propres estampes de nœuds, ces deux-là, nous indiquent que celles-ci ont été exécutées pendant le deuxième voyage de Dürer à Venise en 1506-1507. Quant aux dessins de têtes grotesques et de caricatures qui abondent dans les cahiers du Vincien, Panofsky a montré les liens entre cette production et le tableau bizarre du Christ parmi les docteurs que Dürer a peint à Venise autour de 1506. Ça, c'est le tableau de Dürer. D'autre part, il y a des preuves concrètes de la circulation des copies de figures grotesques faites par Léonard dans le nord de l'Europe. Puisqu'il existe à Weimar, depuis le XVIe siècle, une copie des célèbres cinq têtes de Windsor. Winzinger a étudié finalement les dessins des chevaux et d'autres animaux faits par Dürer en 1505, avant son voyage à Venise, qui peuvent très bien se rapporter au modèle léonardien. L'hypothèse principale autour de cette relation indique la présence du Milanais Giovanni Galeazzo di San Severino, ami et collectionneur de l'œuvre graphique du Vincien, chez Willibald Pirchheimer à Nuremberg pendant l'été 1502. Willibald Pirchheimer. L'amitié et la dépendance économique ainsi qu'intellectuelle de Dürer par rapport à ce savant humaniste Pirchheimer, dont il a fait le portrait, est un fait connu. D'autre part, Galeazzo est un personnage clé dans plusieurs sens. Premièrement, dans les écuries de Galeazzo, Leonardo a trouvé les modèles pour le grand monument équestre qu'il devait fabriquer en hommage à Francesco Sforza. Deuxièmement, nous savons que Jean Galeazzo a apporté à Nuremberg une quantité importante de folios dessinés et écrits par le Vincien. Il est donc fort probable, même plus, je dirais, que Dürer les ait vus et qu'il ait aussi discuté avec l'hôte de Pirchheimer sur des questions théoriques de l'art et de la peinture posées par Léonard. Deux personnes relient le Vincien et Dürer. Le peintre vénitien Jacopo dei Barbari et le mathématicien toscan Luca Pacioli, auteur du traité sur la divine proportion. Voyons le portrait de Luca Pacioli fait, attribué à Jacopo dei Barbari. Luca partageait avec Léonard les savoirs les plus avancés de leur temps dans le champ de la géométrie et de la perspective. La collaboration entre les deux était si étroite que le Vincien a illustré le texte mentionné de Pacioli avec des dessins de corps parfait et archimédien. Donc vous voyez là. Pacioli a transmis les idées de Léonard sur la science du peintre et son rôle de découvreur et chercheur dans la culture de l'époque. On attribue encore à Jacopo dei Barbari un portrait de Pacioli, réalisé en 1485 et conservé au musée Capodimonte à Naples, où le mathématicien apparaît dans son cabinet, accompagné par un jeune homme de la famille des Montefeltre et un corps archimédien cristallin qui pend d'un fil. Les rapports entre Jacopo et Dürer, Jacopo, le peintre de ce portrait, ont été si importants pour le développement de l'artiste de Nuremberg que celui-ci a mentionné dei Barbari dans ses lettres et dans le prologue de son traité sur les proportions. On peut y lire, je cite Dürer, « Un homme appelé Jacobus, né à Venise un peintre intelligent et gracieux m'a montré un homme et une femme qu'il avait dessiné d'après la proportion. Et alors, j'aurais voulu connaître ses opinions plus qu'avoir un royaume nouveau. Mais j'étais très jeune et je n'avais jamais entendu parler de ces choses. Dürer a probablement rencontré de Barbari pendant son premier séjour à Venise en 1494-15. Peut-être l'a-t-il vu une deuxième fois à Nuremberg en 1500, et il est presque certain qu'ils se sont revus à Wittenberg en 1504. Puisque les registres du château de cette ville de Wittenberg mentionnent, parmi les invités de l'an au long d'une semaine, Jacopo dei Barbari et le maître peintre Albert avec son épouse. En conséquence, je crois avoir démontré l'existence de deux connexions très fortes. D'un côté, entre Altdorfer et Dürer. De l'autre côté, entre Dürer et l'œuvre de Léonard. On peut supposer qu'il y a eu une forme de connaissance indirecte de la pratique de la théorie vincienne de la peinture chez Albert Altdorfer. L'hypothèse servirait à expliquer la parenté de style et de concept entre la bataille d'Alexandre et la lettre au Diodario de Soria. Permettez-moi une conjecture extrême au bout de la première partie de cette intervention. Pendant qu'il travaillait pour Giuliano dei Medici dans le château romain du Belvédère, à la recherche de machines optiques faites de miroirs, Léonard a eu deux assistants allemands, Georges et Jean. Le Vincien se plaignait toujours des ambitions de Jean, qui voulait copier les dessins et les plans des génies projetés par le maître. L'allemand Georges accompagnait Léonard dans un voyage à Bologne en 1515. Est-ce possible que ce Jean des miroirs, de retour en Allemagne, ait fait commerce des savoirs des manuscrits qu'il avait arraché à son ancien patron, Léonard de Vinci. Donc je passe à la deuxième partie. Donc des sources nouvelles et des travaux qui nous étaient jusqu'à présent inconnus nous obligent à revoir les hypothèses de cette première partie. En premier lieu, il faut revenir sur les rapports possibles entre Jacopo dei Barbari et Léonard, ainsi que sur les idées esthétiques du premier, exprimé dans un texte écrit en Saxonie en 1501 et très proche des notions du Vincien. C'est un texte que j'ai trouvé en Allemagne. Deuxièmement, seconde, il nous semble qu'Albrecht Altdorfer a dû connaître, sinon directement Jacopo dei Barbari, au moins sa grande gravure de Venise. D'autre part, Altdorfer a eu à sa disposition un texte très important écrit à la cour de Bavière qui contenait une description précise de la bataille entre Darius et Alexandre à Issos. La Bayerische Chronik, écrite par Johannes Aventinus, historiographe officiel des ducs Guillaume IV et Louis X, et commençait en 1526. Ce serait de là que Altdorfer a pris en fait le texte du même Rufus. Quatrième, il y a une étude récente de Christopher Wood sur l'autonomie de la peinture de paysage d'Altdorfer par rapport à l'observation de la nature. Cette étude nous a poussé à entreprendre des expériences optiques sur place, c'est-à-dire au milieu du Wald, au milieu de la forêt allemande en automne. Je crois pouvoir démontrer que, contrairement à Wood, l'expérience de la perception des phénomènes lumineux a eu une place centrale dans la construction picturale d'Altdorfer. Je reviendrai sur ce point-là. Cette constatation semble éloigner fortement la peinture de l'allemand de celle de Léonard, malgré les points de contact qui ne cessent d'apparaître. Tenez par exemple un tableau qui a été récemment attribué à Altdorfer, scène de montagne, que vous voyez là. Il se trouve à Tokyo, au Fuji Art Museum. Mais sa ressemblance avec le paysage du fond de la Joconde reste, à mon avis, stupéfiante. Probablement, notre équivoque est né de l'automatisme qui nous mène toujours à chercher des correspondances entre les textes et les images, de relations qui ne sont pas obligatoires ni nécessaires d'un point de vue historique. Voilà dans cette deuxième partie, j'essaierai de discuter, de critiquer ce qui était le point de départ de la première partie. Donc, premier, nous savons que l'artiste vénitien Jacopo dei Barbari a voyagé à travers l'Allemagne dans les années 90 du XVe siècle et a eu probablement une première rencontre avec Dürer à Nuremberg en 1494. Quatre ans après, en 1498, Jacopo est rentré à Venise et s'est mis à travailler sur la grande xylographie de la vue de Venise à vol d'oiseau qui a été finalement imprimée en octobre 1500, financée par un marchand allemand, Antoine Kolb, ami de Jacopo. Et pourtant, Jacopo n'était plus en Italie à ce moment, car sa présence à Augsbourg est attestée le 8 avril 1500, par sa mention dans le livre des paiements de la cour de l'empereur Maximilien. Il faudrait donc penser que dei Barbari a quitté Venise probablement entre février et mars 1500. Mais pendant ce temps-là, ayant fui de Milan à cause de l'invasion du roi Louis XII, qui était à Venise, Léonard resta à Venise entre décembre 99 et février-mars 1500, c'est-à-dire probablement le moment du départ de Jacopo dei Barbari de Venise vers l'Allemagne. La visite de Léonard a été sans doute un grand événement artistique et politique. La République Sérénissime a commandé aux Vinciens une étude sur place des projets de défense de la frontière orientale du territoire vénitien menacé par les Turcs. On a beaucoup parlé aussi de l'influence que Léonard a laissée sur la pratique et les notions théoriques de la peinture parmi les artistes vénitiens, notamment dans le cas de Giorgione. Il paraît donc possible de penser à une ou plusieurs rencontres entre Jacopo et Leonardo. Le corps du Neptune, regardez, dans la gravure de la perspective de la ville, les dessins de muscles du bras et des épaules de la divinité semblent avoir des rapports très étroits avec les images anatomiques que le Vincien avait fait à Milan vers la fin des années 90 du XVe siècle. Un autre élément qui corroborerait ces contacts est le texte que Jacopo a dédié et adressé en 1501 au duc de Saxonie, Frédéric le Savant, au sujet de l'excellence de la peinture qui devrait faire d'elle un des arts libéraux. C'est un texte très intéressant. Les arguments reprennent certaines idées fondamentales du paragone entre les arts qu'a rédigé Léonard aussi autour de l'année 1500. Quant à Jacopo dei Barbari, il considère que l'arithmétique, la géométrie, l'architecture, la poésie, la musique, l'histoire et même l'astronomie convergent dans la peinture. Voir son noyau est philosophique, car il dérive de textes d'Aristote sur l'âme, dit Jacopo, je traduis Jacopo, où l'on traite la façon dont les espèces visibles parviennent à l'œil et quelle est la nature des rayons qui nous permet de savoir la façon de mettre la matière sur la surface d'une table lisse. Ça, c'est presque Léonard. La conclusion a un écho léonardien encore plus fort. Jacopo écrit « Vous pourrez considérer à partir de ces préceptes quelle est l'excellence de la peinture parce qu'elle est une nature non animée qui crée comme visible ce que la nature crée comme palpable et visible. Et lorsque les hommes ont cherché la nature des choses dans le nombre, la forme et la vertu, il ne reste qu'à les créer. Et cette création est la peinture. Cette idée quasi démiurgique de la peinture, et ça coïncide avec l'idée que Léonard avait aussi du peintre comme le deuxième créateur du monde. Donc, maintenant, le point 2. Jacopo dei Barbari a vécu et travaillé en Allemagne et les Pays-Bas jusqu'à sa mort autour de 1516. Il rencontra Dürer une deuxième fois après 1507 et eut une conversation avec lui sur la théorie des proportions du corps humain. Son œuvre gravée, surtout la xylographie, cette xylographie que nous venons de voir, monumentale de Venise, s'est répandue au nord des Alpes. Encore aujourd'hui, il y a beaucoup d'exemplaires de cette énorme gravure dans les collections allemandes. Mais précisément, une vue à vol d'oiseau est un élément central dans le tableau de la bataille d'Alexandre, peint par Albrecht Dürer en 1529. Entre 1513 et 1516, hein, rappelons-nous, Aldorfer a participé au travail collectif des miniatures qui illustrent les triomphes de l'empereur Maximilien. Parmi ces allégories, je trouvais ça. Celle qui représente la Grande Guerre de Venise. Vous avez toute la miniature en haut, ici, un détail. Alors, cette grande guerre de Venise est considérée de la propre main d'Aldorfer. Déploie un paysage de la ville de la Lacune très lié au panorama de la gravure de Jacopo. La forêt des mâts qui entoure les îles, le profil des galères, les montagnes, tout autour sont des détails communs. Il paraît donc vraisemblable qu'Aldorfer, lui aussi, comme Dürer, ait connu l'estampe. On peut imaginer que la leçon de comment représenter une géographie d'un point de vue cosmique a été apprise par Albrecht Aldorfer via l'observation minutieuse des recours de la perspective linéaire et aérienne utilisée par notre Vénitien Jacopo dans son œuvre. Voyez là les détails de la gravure. Bien. Donc, troisième point. Quant à la source littéraire de la bataille d'Alexandre, de son paysage, une solution paraîtrait plus à la portée de l'artiste que la lettre fictive en Diodario pourrait être un texte connu et disponible à la cour de Bavière. Écrit par Johannes Thurmeier d'Abensberg, dont le nom latinisé Aventinus procédait du nom de sa ville de naissance. Il s'agit d'une histoire de Bavière, la Bayerische Chronik, commandé par les princes Wittelsbach. Comme d'autres textes historiques de l'époque, la Chronica Nuremburgensis, par exemple, de Hermann Schedel, l'œuvre d'Aventinus cherche les antécédents du récit des événements locaux dans les faits et même les mythes de l'Antiquité. C'est ainsi que nous lisons dans son livre que, chose complètement fantastique, non ? Que les Saxons et les Souabes furent placés en Asie et en Europe par les rois et empereurs Alexandre. Je cite Aventinus. Comme les hommes de toutes les terres, d'autres Allemands eurent leurs ambassades auprès d'Alexandre et lui demandèrent la paix et la pitié. Sauf les Bavarois qui lui ont envoyé une lettre de refus et d'inimitié. Ça expliquerait un peu mieux la présence de cette bataille hein, dans la collection du duc de Bavière. Aventin se met ensuite à raconter l'histoire du roi de la Macédoine et à nommer les sources dont il s'est servi. Bien sûr, le livre de Curtius Rufus, édité déjà par le grand Erasme à Strasbourg, est bien disponible, et aussi la Nabasis Alexandri d'Arien. Avec à peine 32 000 fantassins et 4 000 chevaliers, Alexandre, d'après Aventinus, a conquis toute l'Asie mineure sans difficulté. Il a envahi la Syrie à travers la Cilicie, qui est en face de l'île de Chypre. Il occupa le défilé près de la ville d'Issos, où il attendit Darius, le roi des Perses. Celui-ci partit de Babylone avec 300 000 fantassins et 2 000 chevaliers et se plaça devant Damas. Alexandre attendit, et une fois l'armée de Darius dans le défilé, le Macédonien se lança avec son peuple contre l'ennemi, s'empara des chars de combat, des trésors d'or du roi des Perses, de sa mère, de sa femme, de ses filles et fils, de ses concubines. Dans le tableau d'Aldorfer, on voit Chypre, on voit la ville d'Issos, hein, en face, et le défilé d'où Alexandre arrive au combat. Vous voyez Alexandre là, Il sort du défilé qui est à droite du tableau et s'enfonce dans la ligne de Darius qui fuit dans son char et abandonne à sa droite la famille et la cour. L'écriture du panneau qui survole la bataille est une citation de Curtius, mais copiée exactement de la chronique de Bavière. Les éléments en faveur d'une dérivation ou parallélisme étroit entre les récits picturaux d'Aldorfer et le texte d'Aventinus sont puissants. Toutefois, le mont Taurus, illuminé de l'ouest par le soleil couchant, n'est pas mentionné dans la narration d'Aventinus. C'est un détail qui reste encore de la représentation d'Aldorfer, qui s'attacherait à la lettre imaginaire de Léonard plutôt qu'au texte de la Bayerische Chronik. Je laisse ça en suspens. Bon, quatrième point. Maintenant, c'est la théorie de Christopher Wood sur le paysage d'Aldorfer. Christopher Wood publia en 1993 un essai fondamental sur la peinture de paysage chez Aldorfer. D'après Wood, notre artiste s'est éloigné de l'étude systématique de la nature à la manière de Léonard. Dürer et Pirkheimer, par contre, avaient fait de cette façon de concevoir la nature le centre de l'activité plastique au nord des Alpes. Aldorfer, d'après Christopher Wood, se serait opposé à cette position de Dürer et Pirkheimer. Il aurait été le créateur du paysage autonome dans la culture européenne. Bien que le récit épique ou symbolique n'ait pas disparu complètement de ses tableaux, comme nous l'avons vu dans le cas de la bataille d'Alexandre. Je surglose Christopher Wood, qui me paraît un texte très important, essentiel, et qui a vraiment changé notre vision sur l'art d'Aldorfer, mais je crois qu'il y a, de toute façon, dans le noyau de l'argumentation de Wood, un grand problème. Bon, je continue la glose de Wood. La force de l'art d'Aldorfer procède de la tension entre histoire et paysage. Mais ce principe n'a pas de rapport avec la division entre nature et culture. L'opposition qui importe est celle qui oppose sujet et composition. Les paysages d'Aldorfer naissent des gestes intenses de style, des coups violents du pinceau, des extravagances d'échelle et non pas d'une considération de données de la nature. C'est toujours Wood. Hein? La peinture méprise les critères de vraisemblance optique. Plutôt que d'écrire ou raconter, Aldorfer transforme le tableau en phénomène diéictique, c'est-à-dire en surface consacrée à l'exposition des signes concrets de la communication. Son lieu, ses moments, la présence de l'auteur émetteur de signes, l'allusion à la personne concrète de l'observateur. Wood arrive à refuser toute explication causale extérieure à l'image pour comprendre le noyau de la peinture d'Aldorfer. Ces paysages radicalisent leur identité de supplément, parergon, dans le sens grammatologique de Derrida. Excès superflu et gratuit de la représentation dont le développement s'associe à une liberté de l'artiste inconnue jusqu'alors. Wood accepte la liaison évidente qu'il y a entre l'expérience sensible du bois nordique germanique et les œuvres d'Aldorfer, surtout dans ce panneau extraordinaire du Saint-Georges. Mais, d'après Wood, la peinture ne relève pas de la perception directe et analytique du bois, vu de dedans, comme il nous semble d'emblée. Non. Le peintre s'est approprié de l'énergie du feuillage qui pousse et étale ses couleurs. Avec sa main et ses mouvements, il a été capable de refaire le spectacle de la nature et d'instaurer la réalité parallèle et purement artistique du tableau. Le langage de Wood s'obscurcit alors un peu. Il dit « Le feuillage d'Aldorfer n'appartient à aucune catégorie, ni à la forme, ni à la non-forme. » J'essaierai de discuter cette dimension en revenant au sensible. Contre Wood, je considère que les expériences artistiques de Léonard et d'Aldorfer se sont construites toutes les deux à partir de l'observation de la nature et l'analyse des données sensibles. Léonard nous a laissé des images et des textes, tandis qu'Aldorfer ne nous a laissé que des images. Léonard a étudié les phénomènes lumineux produits par le contact de la lumière sur la surface des feuillages en mouvement, sa diffusion à travers et entre les feuilles et la projection des ombres sur le sol. Levinsien établit une différence marquante entre le vert saturé des parties illuminées des arbres, le vert obscur presque noir des parties à l'ombre et le noir qui se mélange à la couleur locale du pré ou du gazon dans l'ombre projetée. Des photos prises dans les bois sous le soleil de l'après-midi pendant l'été nous ont montré jusqu'à quel point de précision de finesse sont arrivées les observations vinciennes. Les arbres, ces photos ont été prises en Toscane. Cependant, à vrai dire, il y a un cadre implicite de ces expériences qui nous manquait. Avant de revenir sur la comparaison entre Léonard et Aldorfer, parce que Léonard a concentré ses analyses sur les bois toscans au printemps ou en été. Il y a dans ces textes très peu de références explicites à l'automne. Lorsqu'il y en a, elles sont sans conséquence apparente sur sa peinture, sauf peut-être dans les fonds de la Ginevra dei Benci et dans le grand arbre à droite du groupe de la Sainte-Anne au Louvre. Des images prises dans les Walder de Potsdam et de Grunewald au mois d'octobre, en plein automne, nous permettent de vérifier par rapport à Léonard. D'abord, Léonard, il n'a presque pas parlé de l'automne, Léonard, rappelez-vous. Mais il y a, quand on voit ces images, des photos, et on la rattache à la théorie de la couleur et de la lumière de Léonard, on vérifie deux choses contradictoires. La première, non, c'est, elle dit, cela dit, non, Levinsien a peu considéré théoriquement, et même dans la pratique, l'illumination des feuillages d'automne. Mais la deuxième, c'est que pourtant, ses considérations sur l'interaction de la couleur des objets, de la lumière, des ombres, de l'atmosphère, quand nous les extrapolons au phénomène de l'automne, on le fait sans effort. Et on comprend, d'après la théorie de Léonard, qu'est-ce qui se passe avec les feuillages orange, jaune, rouge, aux ombres colorées sur l'herbe du sol. L'exercice nous découvre la vérité optique de la théorie générale de Léonard sur la couleur, même quand elle est appliquée à un cas particulier que Léonard n'a pas étudié, presque pas étudié, que c'est le feuillage d'automne sous le soleil. Quant à Aldorfer, la comparaison entre nos photos allemandes, son chef-d'œuvre sur le Saint-Georges dans la forêt, démontrerait la cohérence buinivoque qu'il y a entre expérience, acceptons qu'elle soit presque directement versée dans les photos, ça c'est discutable, ça on peut discuter aussi, et représentation dans la peinture des feuilles illuminées par la source de lumière, de leurs ombres pleines des couleurs chaudes du feuillage d'automne, des effets atmosphériques sur les objets et les figures sous les arbres. Nous ignorons s'il y avait ou non une théorie systématique de la lumière et de la couleur derrière les peintures concrètes d'Aldorfer. Mais il paraît assez évident que les effets visuels de ces œuvres sont la conséquence d'un travail analytique accompli sur le matériel sensible pourvu par l'observation du monde. Alors, notre second itinéraire d'historien nous a amené à écarter toute possibilité d'une transmission matérielle des textes de Léonard dans les ateliers nordiques que nous avions cru apercevoir dans la parenté si étroite des récits de la lettre d'Odiodario et de la bataille d'Alexandre peinte par Aldorfer. J'insiste sur le fait que cette erreur revient au principe herméneutique qui sous-tend la méthode iconologique de l'historiographie de l'art, c'est-à-dire dans l'horizon de l'art européen de la Renaissance, de la période baroque, il nous faut toujours chercher le texte auquel s'accroche la représentation des arts visuels, même celle du prétendu réalisme hollandais du XVIIe siècle. Ça, c'est le grand principe, même aujourd'hui, hein, qui sous-tend l'organisation des expositions ainsi en Europe comme en Amérique. Dans les années 1960-70, par exemple, les travaux de Eddy de Jong n'ont fait que déconstruire la notion réaliste de la nature morte, du portrait, du tableau de genre dans la peinture baroque des Pays-Bas. Ils ont remplacé cet art dans le cadre de la production visuelle des allégories et symboles sur la morale et la religion. Les recherches de Eddy de Jong ont renforcé donc le principe herméneutique dont je parle. Mais je crains que nous soyons maintenant en présence d'un préjugé insoutenable et non plus d'un principe. L'iconic turn, à la manière de Wood, nous permettrait de surmonter le piège de la correspondance texte-image, mais nous porte aussi à des affirmations scientifiquement insoutenables, comme celle sur l'inutilité et l'impossibilité de la recherche de causes au sujet de l'autonomie du paysage chez Adorfer. Nous proposons donc en retour à certaines positions essayées par Gombrich dans son célèbre livre « L'image et l'œil ». Elle consiste à confronter les réalités de la perception humaine du monde avec les réalités de la perception des objets illusoires créés par nous-mêmes, au moyen des techniques et dispositifs que la science et la culture mettent à notre portée pour élargir l'appareil de notre sensibilité biologique. Ce faisant, nous avons réussi à rattacher les figures de Léonard et d'Altdorfer à un niveau plus profond des pratiques que la seule transmission des écrits, des dessins ou d'autres images. Chacun d'eux se situe dans les cadres d'une expérience naturelle et historique particulière. Mais l'appartenance commune à la civilisation européenne du début du XVIe siècle les unit et les mêmes passions culturelles envers la découverte ou l'invention d'un savoir nouveau les traversent. Nos deux artistes ont cherché à suivre le processus de la connaissance sensible de la nature, à convertir le parcours de l'œil et son exploration de rapport entre les objets, la lumière et l'air qui les entoure, le transformer en mouvement de la main capable de refaire le visible du monde hors de nous-mêmes. En 2004, Thomas Knoll a signalé cette convergence forte entre les processus de recherche optique de Léonard et Altdorfer, explicitement, sur le plan de la perspective et de la représentation de l'espace tridimensionnel, quoique le second ne connaissait pas les remarques du premier à ce sujet, ni aucun d'autre. Notre détour technologique nous permet donc de revenir à une chose, pour moi, c'est aussi importante que le retour à Gombrich, que c'est le retour à Louis Marin, quand il parle sur l'indépendance sémantique des images. Peut-être avons-nous apporté une bonne preuve matérielle de la vérité de sa théorie. Merci beaucoup.